Bon, vous avez fait, bien fait de nous inviter, parce que c'est bien, je vous remercie là-dessus, parce que, et pourquoi ? Parce que c'est trop souvent dans les discussions politiques, Grenelle, PAC, etc., la question foncière est toujours absente. C'est trop complexe, et les gens, on offre au montant que le foncier est un vrai problème, et ensuite on reprend vite sur la recherche, la mesure fiscale et environnementale, le bio, le deuxième pilier. Et quand même, la terre est la base de toutes ces mesures. Comment réaliser des changements dans les multiples domaines qui accompagnent l'agriculture sans en maîtriser l'élément de base qui est la terre? Et je peux vous dire en deux mots, c'est complexe. Le foncier est le sujet de spéculation. Sont des lois opaques. On ne veut pas y toucher. Toutes les grandes fortunes viennent de spéculation sur la terre et l'immobilier. Et si on dit oui, c'est un problème, et comment on va le résoudre? Les gens regardent le plafond. Je représente ici une association nommée Terre des Liens qui est née du constat que notre agriculture paysanne, bio, agroécologique trouve peu d'attention politique sauf verbale. Mais dans le budget, on ne le retrouve pas. Un intérêt scientifique marginal. En conséquence, cette agriculture n'est pas considérée prioritaire et ne trouve pas facilement accès à la terre. Un constat de terrain, car j'ai consacré 40 années de ma vie, d'abord comme paysan et après comme bénévole, à la défense et le développement de ce courant de l'agriculture, jusqu'à maintenant avec peu de résultats, car partout dans le monde on constate une hémorragie des paysans. En France, on perd chaque semaine 250, pas 200, c'est 250, et si c'est pas 300. En Europe, c'est plutôt 10 000, et mondialement, les chiffres sont énormes. C'est intéressant de voir le discours de notre Mexicain dans le film qui dit ils sont tous partis, pourquoi ils ne reviennent pas faire comme moi? Mais ça, c'est une vraie question. En France, la seule vraie proposition de considérer la terre comme un bien commun date de 1975, quand le Bureau national des PS adoptait unanimement une proposition inspirée par Edgar Pisani, ensuite décrit dans son livre « L'utopie foncière ». Aujourd'hui encore, et malgré la réédition récente du livre, l'enseignement et les pistes lumineuses et pertinentes dans ce texte restent lettres mortes. La terre est restée une marchandise, chaque pays a sa propre politique foncière ou manque carrément une politique, ce qui facilite ce fameux accaparement de terre, le land grabbing. Le film Planète à vendre en montre les dégâts aussi pathétiques qu'inquiétants. Il manque carrément, totalement, une législation foncière dans beaucoup de pays dans le monde. Et si ça existe, c'est lettre morte aussi, parce que les dirigeants font ce qu'ils veulent. Alors, quoi faire? D'abord, agir dans son propre entourage. Terre des Liens a été fondée en 2003 et est devenue rapidement opérationnelle. Avec, et ce n'est pas par hasard, le soutien indispensable de la banque éthique, la NEF. Depuis la nouvelle économie fraternelle. Depuis 2006, est créée une société d'investissement solidaire et bientôt nous espérons que notre fonds de dotation va devenir une fondation en reconnaissance d'utilité publique. Terre des Liens est une sorte de laboratoire qu'on peut comparer avec la proposition d'Edgar Pisani de petit à petit, l'État achète petit à petit la terre et installe des offices fonciers par région. Nous, on a actuellement 7 000 à 8 000 actionnaires, 2 000 donateurs, 2 000 adhérents. Ça veut dire un bon 10 000 personnes qui ensemble possèdent 3 000 hectares où on fait un autre type d'agriculture. Terre des Liens, avec l'épargne et les dons solidaires, nous libérons la terre. Et contre bail rural avec clause écologique, ce qui est, pas tout le monde est content qu'on fait ça, mais c'est quand même aussi un laboratoire d'essayer qu'on ne peut pas demander aux gens d'être bons pères de famille, mais il faut demander un peu plus. Et nous, on fait donc des clauses écologiques, nous la mettons à disposition des candidats à l'installation. Ces terres ne sont plus sur le marché, ils ne vont plus revenir. En effet, nos statuts nous interdisent de les remettre sur le marché. Fort de ce résultat probant et expérience concrète auxquelles nous nous sommes confrontés, nous essayons d'introduire la question de la terre comme bien commun dans le débat public au niveau local, régional, national. Et depuis 2 ans, pour compléter le travail de nos partenaires sur le développement rural, agriculture, paysanne et bio, PAC 2013 par exemple, nous coordonnons un débat au niveau européen. On a essayé de mettre la question foncière aussi dans la question PAC et ils disent « oui, mais ce n'est pas l'agriculture, c'est plutôt l'économie, etc. » Donc on n'y le met pas. Car l'accaparement de la terre est partout. La forme sociétaire avec des fonds d'investissement menace aussi en France l'agriculture familiale. Sans parler de land grabbing. Les fermes deviennent plus grandes, on ne peut plus leur redonner. Il faut donc, ce sont des fonds d'investissement qui, de petit à petit, très calmes, un peu en s'imitant et s'inspirant sur Terre de Liens, c'est dangereux ça, ils sont en train de venir sur le marché et de s'introduire aussi en France sur le marché de la terre. En Europe centrale et orientale, c'est encore pire. Là, les investisseurs profitent de l'absence de moyens d'investissement pour une agriculture de proximité correspondant à son entourage social, comme M. Sioulos veut bien. Et ils achètent ou louent à grande échelle. Sans un changement de mentalité et une législation appropriée, volontariste et exemplaire chez nous, comment influencer les habitudes de land grabbers en Afrique et Amérique du Sud, bien présents dans le monde financier européen? C'est le Deutsche Bank, c'est le Rabobank en Hollande, c'est le Crédit Agricole, c'est ces banques qui conseillent leurs investisseurs d'aller dans le land grabbing ailleurs. Et ce sont des gens de chez nous. Leur mentalité doit changer et c'est pour ça qu'on a fait Terre de Liens, entre autres. Ces idées viennent d'ici. Et c'est d'abord ici qu'il faut le changer. Qu'est-ce qui se passe actuellement en France, où les prix de terre sont encore relativement modestes comparés avec nos voisins? En France, la moyenne, c'est 5 200. En Hollande, dans le Benelux, laisse-nous dire, c'est plutôt 40 000, avec très vite de 60 000 euros par hectare. Pleine de pots, 100 000 euros, Espagne, Allemagne, même Portugal, les prix de terre sont très très hauts et c'est en France qu'on a le moins et c'est entre autres, et j'ai été un peu sévère pour le SAFER dans le programme, mais je peux vous dire, le SAFER c'est quand même nos voisins nous envient l'existence de SAFER qui a quand même fait avec la législation sur le fermage a fait qu'en France on est encore relativement modeste comparé avec les autres pays où ça n'existe pas. Le temps manque toujours en colloque et un colloque ne peut pas être plus qu'un moment de relever la tête et échanger. Nous travaillons avec nos partenaires associatifs, collectifs et ministères à l'élaboration d'une stratégie qui doit favoriser l'évolution de nos conceptions et de notre rapport à la Terre pour que celle-ci soit réellement et dans les faits considérée comme un bien commun. Comme de l'eau et de l'air, la Terre c'est un bien commun. Mettez ça bien dans votre tête. Hein. Nous essayons de nous accorder sur ces étapes, des orientations, des principes, comme par exemple, moins de pouvoir pour les petites communes de définir leur plan local d'urbanisation. Ça, c'est acquis, c'est maintenant les intercommunalités. Plus de pérennité pour le schéma de cohérence territoriale, parce que c'est quand même très bien, mais ça reste un schéma. Et pour le moment, la terre, c'est une propriété privée et le propriétaire peut vendre quand il veut, à quel prix il veut et à quel moment il veut. Malgré un bon Scott, je peux vous le dire. Les affaires sont en soi des organismes bénéfiques qui donnent envie à nos voisins européens, mais elles doivent d'urgence devenir plus citoyennes et moins syndicalisées. En plus, avec un pouvoir de stockage des terres pour avoir le temps de trouver de bons candidats d'installation. Et là, on travaille avec des collectivités locales. Le stockage, c'est totalement essentiel. Avec, à côté, la formation de nouveaux candidats pour l'installation, pour changer la situation. Mais si nous voulons vraiment installer, créer des emplois qui ont du sens, donner une place équilibre à la agroécologie de proximité et changer les mentalités, les étapes sont nombreuses et longues. Je ne désespère pas. Soutenez-nous. www.terredelien.org. Vous pouvez avoir toutes les informations pour ce qu'on fait et comment vous pouvez nous soutenir et participer à notre aventure. Je ne dis pas, prenez des parts, informez-vous. Plus de fermes nous avons, plus de jeunes installés, plus de poids dans le rapport de force inévitable. Parce que c'est bien d'avoir de bonnes idées. Si on n'est pas au moins 10 à 20% de paysans et un bon nombre de gens, de citoyens, pour dire on veut que ça soit autrement, on n'y arrive pas. C'est une question de rapport de force. Je vous remercie.
C'est bien,
alors, avant de passer la parole à Gaël Louezdon, je voulais vous demander, parce que je reviens à mon petit tour de France là, que je viens de faire avec les Moissons du Futur, et je vais vous donner une anecdote. Il y a 3 semaines à peu près, j'étais à Avignon, il y avait un jeune qui s'était formé en maraîchage en biodynamie, qui voulait s'installer, qui avait repéré 3 hectares qui allaient se libérer, si j'ose dire, et la SAFER les a vendus finalement, enfin accepté qu'ils soient vendus, un grand propriétaire terrien qui avait déjà 200 hectares pour... Voilà. Est-ce que ce genre d'histoire est courant?
C'est courant, mais je ne suis absolument pas ici pour dire que les affaires ne marchent pas. C'est certainement vrai. On a beaucoup de... On a 100 fermes, et chaque ferme est négociée avec des affaires. Donc, chaque affaire est indépendante. Donc, on a des affaires, par exemple, en Rhône-Alpes, en Languedoc-Roussillon, en PACA, où on travaille vraiment très bien ensemble. Il y en a des autres, surtout, bien sûr, dans des régions grande culture, où le contact est beaucoup plus difficile. Et en plus, il faut dire aussi une différence entre une groupe progressive, surtout dans le salarié et avec quelques exceptions dans le conseil d'administration, mais de plus en plus, on a quand même une convention avec le SAFER pour développer l'agriculture biologique. Et il faut l'utiliser, mais là aussi, c'est tout le temps pareil. Il faut faire des brèches dans des instances qui sont en fait opposées à nous, qui sont, comme vous dites, encore le victime d'une idée. On a entendu ça, on prêche un peu pour la propre paroisse ici, parce que tout le monde est presque d'accord, mais c'est vrai qu'ils sont encore victime d'un modèle qui leur échappe.
Voilà. Alors, Joël Labbé, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, juste un mot, parce qu'avec Marie-Monique, on avait choisi de vous inviter justement parce qu'on estime essentielle la question du foncier. Par rapport aux affaires, pour les connaître un peu aussi sur le Morbihan, c'est un bon outil en soi. Je crois que l'outil est à revoir, et notamment en termes de gouvernance. En termes d'urbanisme, c'était évoqué tout à l'heure, les élus locaux donc s'intéressent à l'urbanisme, enfin à leur PLU, donc plan local d'urbanisme, d'aménagement, les SCOT également, que sous l'angle de l'urbanisme, qu'il soit habitat ou commercial et industriel. Maintenant, et heureusement depuis la loi SRU et maintenant depuis le Grenelle, on est tenu de limiter l'étalement urbain pour protéger les terres agricoles. Mais on ne réfléchit pas sur le devenir de ces terres agricoles. Donc l'intérêt pourrait être, je vois Véronique qui nous a rejoint devant, qui nous vient de l'Assemblée nationale, pourrait être de faire en sorte que les documents d'urbanisme soient maintenant accompagnés d'un document de projet agricole communal ou projet agricole de territoire pour que, et pas seulement le monde paysan, mais les élus locaux, les citoyens consommateurs puissent réfléchir collectivement pour se porter à 20 ans sur notre territoire, quel type d'agriculture on souhaite, et en faisant le lien avec l'alimentation des habitants du territoire.
Je m'excuse, mais un bon exemple. On travaille avec une commune là, au Bagne, dans le sud. Ils veulent sauver 2 hectares pour une petite ferme qui sera éducative, etc. Terdien va essayer de l'acheter, cette terre, 130 000 euros l'hectare. Et là, ça, c'est une spéculation qui est partout, tout le monde, tout le propriétaire de terre trouve ça très normal, et la loi aussi le trouve, le juge le trouve très normal. Moi, une des propositions qu'on fait aussi et qu'on répète, et j'espère bien que le ministère va le noter quand même, c'est que Pisani l'appelle ça un plus-value sans contre-prestation, c'est amoral. c'est vrai, c'est amoral. Et ce qu'il faut absolument... Aujourd'hui, je crois que c'est le taxe sur le plus-value, c'est quoi? C'est 5-10%. Ça doit être 90%. Ça, c'est que ça. Que si on n'a pas ces mesures, oublie l'agriculture urbaine.
Je m'excuse.
Gaël Louezdon, c'est donc à vous, cofondateur aussi de Terre de Liens et coordinateur de Terre de Liens Normandie. Nous sommes connus là-bas, d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc vous allez nous présenter, alors je trouve ça très intéressant, votre convertisseur alimentaire, n'est-ce pas? Qui est un peu un outil pédagogique, hein, on va dire, de sensibilisation, de prospection économique aussi, qui montre que l'agroécologie peut créer de nombreux emplois. Je trouve que c'est une chose aussi à laquelle on tenait beaucoup, parce qu'on a parlé des externalités de l'autre modèle, mais... Alors on nous dit l'agroécologie, oui d'accord, il faut plus de main d'œuvre, mais si on prend ça de manière positive, ça veut dire c'est plus d'emplois. Et moi je vois partout en France des jeunes qui cherchent à s'installer, donc quelque part il doit bien y avoir, il se passe quelque chose de ce côté-là. Alors donc voilà, c'est quoi le convertisseur?
Voilà, donc je vais vous le présenter, je vais intervenir au titre surtout de Terre de Liens, mais je vais aussi tenir un propos en tant qu'élu local, puisque on essaye de travailler avec diversité d'acteurs. Il se trouve que je suis dans un mandat où j'ai expérimenté 2-3 choses qui me montrent qu'il faut aussi faire évoluer le pouvoir d'agir des collectivités si on veut donner une chance à la citoyenneté économique dont je vais vous parler, qui je pense est l'un des principaux leviers pour réorienter l'histoire agricole et alimentaire. Je vais commencer par ne pas être d'accord avec une partie de ce que j'ai entendu dans la journée. Oui, l'innovation, elle avance sous la contrainte. Oui, peut-être. Mais je ne suis pas certain que le changement avance sous la contrainte mieux que par le désir. Et je pense qu'il faut investir dans le désir d'agriculture, dans le désir d'agroécologie, dans le désir d'alimentation locale, parce que c'est particulièrement désirable. On va essayer de vous le montrer. On commençait l'expression, on ne va pas chercher les mouches avec du vinaigre. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur le miel. Alors... le petit convertisseur qu'on a fait, il vise à montrer en quoi, comment chacun peut agir et peut participer à la relocalisation de l'agriculture. Donc avec Caroline, on va mettre un chiffre. Là, vous voyez, hein, le convertisseur, il y a plusieurs onglets, communes, écoles, maisons de retraite, hôpitaux, restaurants d'entreprise, quartiers hameaux où on peut rentrer le nombre d'habitants que l'on veut dans le convertisseur. Et ça traduit les volumes que nous mangeons par an. En alimentation, en nombre de paysans, en agriculture bio, à taille humaine et en proximité, que nous devrions avoir si tout le monde mange local. Donc ça donne une perspective. Nous pouvons participer à l'installation de paysans nombreux si nous relocalisons et si, bien entendu, nous mettons tous les moyens nécessaires à la relocalisation. Alors on va rentrer 100 habitants. Voilà. Et on va cliquer sur « Calculer ». En espérant que ça marche. Donc voilà, maintenant on descend un peu. On voit qu'on peut protéger 35 hectares en relocalisant son alimentation. On va aller sur voir plus de détails. Voilà, et donc dessous, voilà, il faut remonter la page. Et vous avez donc les surfaces que vous protégez en relocalisant votre alimentation, si c'est de l'agriculture en bio, et le nombre de paysans qu'on installerait. Alors, tout de suite, bien entendu, vous voyez que ce sont que des proportions de paysans. C'est déjà pas mal. Si on lit le résultat avec une autre porte d'entrée, on peut dire que nous participons au réancrage de la production agricole dans une économie locale à hauteur de 37, 2%, 57%, etc. etc. Donc on se rend solidaire des paysans pour les aider à réancrer leur alimentation dans les territoires. La restauration collective, vous pouvez le faire, vous verrez aussi en quoi une restauration collective peut participer à aider les paysans à réancrer leur production dans le territoire. On va rentrer maintenant un deuxième chiffre, et puis on va s'arrêter là. Un chiffre fatidique, 65 millions. Alors, 65 millions, c'est à peu près la population du pays. On clique sur calculer. Voilà, nous arrivons à 22 millions, presque 23 millions d'hectares, sachant que nous avons à peu près 28 millions de SAU. C'est donc à peu près 80% de la surface agricole utile dont nous avons besoin pour manger localement. Cliquons sur plus de détails. On glisse, on descend. Et nous avons le nombre de paysans que nous devrions avoir en France.
Ben voilà.
Donc... si ça, c'est pas désirable.
Trois fois plus qu'aujourd'hui.
Voilà, trois fois plus qu'aujourd'hui. Donc, si ça, c'est pas désirable, comme disait Marc Dufay, nous avons un certain nombre de chômeurs en France. Il y a un récent sondage qui est paru dans Opinionway pour les fonds de formation en agriculture qui montre que 51% des chômeurs qui n'ont donc pas de travail aujourd'hui seraient prêts à aller travailler dans l'agriculture. Il y a du débouché. Vous pouvez faire l'exercice pour vos communes et donc je vous invite fortement à le faire pour aller voir après vos élus et essayer de leur proposer une autre stratégie de développement agricole. Alors, pour ne pas prendre tout le temps sur le convertisseur, je voulais quand même rappeler deux, trois choses. Pourquoi on a créé Terre de Liens ? Parce qu'il faut recréer du lien entre les différents acteurs de la société pour prendre en charge la protection des terres par le développement économique, par l'alimentation locale. Il faut que ce soit désirable, encore une fois. La contrainte, oui, les menaces préfectorales, oui, sur les bassins d'alimentation captage, mais c'est mieux de développer l'économie qui va protéger elle-même les bassins d'alimentation de captage. Comment on fait ? On va voir les consommateurs, effectivement. Et surtout, on arrête de parler que des consommateurs. Des consommateurs, c'est bien, mais c'est pas encore suffisant. Je pense qu'il y en a marre d'être réduit en tant qu'habitant de ce pays à une simple fonction de consommation. Nous sommes tous des citoyens. Et donc nous pouvons participer à l'évolution de la gestion de notre territoire et à l'économie de notre territoire. C'est pour ça que nous appelons à la citoyenneté économique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire plutôt que de laisser son argent dans les banques qui en font ce qu'elles veulent pour financer plutôt les grandes surfaces, les systèmes agro-industriels, les zones d'activité économique, etc., etc., qui consomment de la terre, on en reprend une partie et on le met de façon transparente dans les outils que nous avons créés avec la NEF pour donner une utilité sociale, environnementale et économique à notre argent dans l'alimentation locale. Et donc on en est arrivé effectivement à 30 millions d'euros rassemblés au niveau national. Et avec cet argent mobilisé localement, on va le réinvestir localement dans le développement économique, local, alimentaire, de proximité. Et on va le faire en bonne intelligence aussi avec les élus. Deuxième catégorie d'acteurs qu'on va voir, et ça nous prend beaucoup de temps. Et qu'est-ce qu'on fait avec les élus ? On fait de l'observation foncière stratégique. On fait du conseil foncier stratégique. Ça consiste en quoi ? Les élus aujourd'hui, ils ont deux bibles, le code des collectivités territoriales et le code de l'urbanisme. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, comme l'a dit Joël Labbé, la principale fonction d'un élu attendu d'un élu, mais on peut peut-être surprendre les gens, la principale fonction attendue d'un élu, c'est qu'il fasse du développement économique et ça passe par le développement des zones d'activité, pour faire simple. Or, il y a un autre potentiel de développement. On le voit bien. Seulement, on ne peut pas intervenir. Je fais partie du SCOT de l'agglomération de Caen. Pendant deux ans, on a travaillé à l'élaboration du SCOT. J'ai essayé de faire en sorte que dans le projet d'aménagement et de développement durable du territoire, dans le PADD, donc dans le document politique, nous inscrivions des zones de résilience alimentaire autour des villages, autour des bourgs. D'ailleurs, il faut qu'on définisse résilience parce qu'on l'a employé plusieurs fois aujourd'hui. C'est la capacité à rebondir après un choc. Donc proposons-nous une résilience alimentaire pour rebondir tout de suite avant un choc. Je ferme la parenthèse. Donc des zones de résilience alimentaire et il y a des outils qui existent. Sans vouloir évoquer des sujets douloureux, la zone d'aménagement différé est un outil qui permet d'urbaniser. Vous bloquez la spéculation foncière pendant 10 ans pour permettre de faire du logement social et donc d'urbaniser. Pourquoi pas des zones d'aménagement différé agricole qui bloqueraient la spéculation foncière, non pas pendant 10 ans, mais au moins le temps d'une carrière d'un paysan, c'est-à-dire une trentaine d'années, pour éviter que les fonds de pension, effectivement en ce moment, investissent dans les terres aux portes des villes et attendent quoi ? Que la ville avance pour changer la destination des sols et donc faire les culbutes financières qui vont avec. Donc créons des zones d'aménagement différé agricole avec tout le dispositif, nous permettant, nous élus aussi, éventuellement de préempter, puisqu'il est difficile de préempter aujourd'hui pour avoir des projets agricoles, il faut aussi innover en la matière. Il faut redonner du pouvoir en fait aux élus locaux dans l'aménagement du territoire agricole. En fait, ils n'en ont pas. Aujourd'hui, la SAFER, effectivement, qui est un outil essentiel qu'il ne faut pas jeter à la poubelle. Il faut composer avec. Et d'ailleurs, il faut prendre le discours même de la SAFER, au moins des techniciens, pas toujours des élus. Il faut prendre le discours de la SAFER au pied. Nous sommes un outil au service du territoire, dont acte. Je vous raconte une petite histoire pour l'illustrer. Communauté urbaine d'Alençon, ils ont mis en place un agenda 21. Et ils essayent de développer les filières courtes. Nous développons un partenariat entre Terre de Liens et la SAFER pour faire de l'observation foncière sous l'égide de la communauté urbaine d'Alençon, qui donne le cahier des charges. Donc on va observer la terre pour détecter des terres pour faciliter de l'installation agricole en circuit court et en bio.
avec la SAFER, avec les citoyens qui se mobilisent et qui font eux-mêmes de la veille foncière, qui peuvent détecter du foncier, qui peuvent investir dans le foncier avec nous, et ensemble, SAFER, collectivité locale et mouvement social Terre de Liens, on va petit à petit redévelopper l'agriculture pour atteindre les chiffres qui sont devant nous. Autre élément aussi que je voulais vous signaler, nous essayons de relier toutes les composantes de la société. C'est pas évident, on est très ambitieux. Deux minutes. Et parmi les composantes de la société, il y en a une qu'on est allé chercher, c'est le monde des entreprises. Petite histoire aussi, pour terminer. Sur mon village à Saint-Aignan-de-Craménil, dans le sud de Caen, nous avons installé aidé à l'installation d'un jeune maraîcher sur des terres nues. Je n'ai plus d'épicerie dans mon village depuis une dizaine d'années. Or, avec une entreprise de quincaillerie de la région de Caen, nous avons été chercher cette entreprise pour leur proposer d'investir dans la terre, mais aussi de co-investir avec nous dans la construction d'un bâtiment agricole dont on avait besoin. Et dans ce bâtiment agricole, il y aura le matériel du maraîcher, ses ânes aussi, puisqu'il fait de la traction animale pour limiter l'utilisation du tracteur, mais aussi une boutique paysanne. En tous les cas, les locaux pour une boutique paysanne à créer et qui va peut-être commencer à recréer un commerce de proximité et à l'étage un logement. Résultat, l'action citoyenne, coordonnée, solidaire, permet d'inventer une ferme en périurbain qui n'existait pas. Donc, et je pense que ça fait sens aussi dans la tête des entreprises, dans la tête des salariés des entreprises. Je pense qu'il y a un ras-le-bol général de voir la finance nous échapper, le monde bancaire complètement fou. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut soutenir la Nef et son projet de banque coopérative. Il y en a marre de voir l'alimentation nous échapper. Il y en a marre de voir, comme sur ma communauté de communes, nous avons investi des centaines de milliers d'euros pour gérer des inondations dans la plaine. Je vous promets, nous gérons des inondations dans la plaine. Pourquoi ? Parce que les sols sont quasiment morts, n'absorbent plus l'eau, nous n'avons plus de fossés, plus d'infrastructures écologiques. Effectivement, la photo de la région de la Sarthe, c'est exactement la même chose chez nous. Et résultat, la collectivité est obligée de payer pour corriger les méfaits de cette évolution. Bref, l'alimentation de proximité, oui, des projets alimentaires territoriaux et non pas qu'agricoles, parce que quand on dit projet alimentaire, on implique l'ensemble de la société. Les outils pour pouvoir aménager, il faut faire œuvre législative. Nous espérons bien qu'avec cette mandature, nous pourrons effectivement avoir un peu plus d'outils pour agir avec les citoyens au plan local en tant qu'élu local. La réforme de la SAFER. Il y a une loi aussi qui est en préparation sur l'économie solidaire. Je termine là-dessus. Je dis attention à M. Hamon là-dessus. Le périmètre des acteurs de l'économie solidaire pourrait être élargi. Et on pourrait voir aujourd'hui des mouvements qui se revendiqueraient de l'économie solidaire, comme on s'est revendiqué de plus en plus du développement durable. Il pourrait y avoir du greenwashing aussi par là. Donc attention, attention. Continuons de soutenir les gens qui décident de mettre de l'argent dans nos outils à but lucratif très limité, parce que nous ne rémunérons pas l'action. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts aussi à donner une utilité économique à leur argent sans avoir de retour financier. Continuons à soutenir ça. C'est le devenir de l'agriculture participative. Citoyens organisés et élus volontaires. Les élections municipales l'année prochaine, nous sommes pour un réseau de collectivités, je termine, un réseau de collectivités qui rentrerait avec nous dans Terre de Liens pour développer demain sur la prochaine mandature au plan local ces innovations qu'on vous propose. Il y en a de multiples, allez sur le site internet.